Épisode 7. L'arbre Yggdrasil et le dieu Balder. Des récits mis en musique avec une vielle suédoise.
Bonjour Éléonore.
Bonjour.
C'est magnifique ce que vous faites.
C'est de la musique traditionnelle suédoise.
Éléonore, vous êtes musicienne et compositrice française, Éléonore Billy. Et vous jouez d'un instrument très étrange, la nickelharpa, qui vient de Suède et du Moyen-Âge. Et vous êtes aussi une spécialiste de la musique scandinave. Merci de me recevoir et pourriez-vous, s'il vous plaît, me décrire, m'expliquer cet instrument réellement très étrange pour moi.
Alors c'est vrai que c'est un instrument étrange. Les gens aiment à se l'imaginer comme un bateau, un drakkar, avec la volute de l'instrument comme la proue du drakkar. Donc c'est une vielle archée scandinave. En tout cas, les traces les plus importantes qu'on retrouve sont en Suède. Donc voilà, une caisse de résonance comme sur un violoncelle. Et puis, la première particularité, c'est la présence de 4 rangées de touches, un instrument qui est complètement chromatique, c'est-à-dire qu'on a tous les demi-tons de la gamme chromatique. Vous êtes un peu musicienne ou...
Aucunement. J'ai très honte parce que j'aime la musique plus que tout, mais je n'y connais strictement rien, donc je ne joue d'aucun instrument. Vous êtes pour moi une véritable fée. Et je demande justement à la fée que vous êtes si vous voulez bien nous faire découvrir le son de cet instrument.
Alors oui, je vais vous faire découvrir et je rajoute juste parce que dans le son, il y a la présence très importante de cordes qu'on ne joue pas.
Ah.
Elles sont 12 et ces cordes-là, on ne peut pas les toucher ni avec l'archet et ni avec les touches. Ces cordes-là, on les accorde de manière très précise. Chacune avec une note différente. Et du coup, ces cordes-là vont, quand je vais jouer une corde sur les cordes mélodiques, elles vont répondre, entrer en résonance et en rentrant en résonance, émettre des sonorités harmoniques. Ça va amplifier naturellement l'instrument. C'était une manière, au XVIIIe siècle, d'amplifier naturellement les instruments quand on n'avait pas les micros et les moyens de sonorisation actuels.
Donc,
dès qu'on produit un son, quel qu'il soit...
Mais oui, c'est fantastique. Fantastique.
Et donc, voilà, après, une multitude de sons qu'on va jouer. On va avoir chacune des notes que je viens de jouer. Donc, la, si, do, dièse, ré et mi. Les cordes sympathiques vont se mettre à vibrer et résonner.
Alors ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends et que je vois des cordes sympathiques. Bon, c'est magnifique. Alors, comment avez-vous découvert cet instrument ?
Eh bien, je me suis passionnée pour la musique traditionnelle suédoise, la musique à danser, donc la musique populaire. Mmh. Et je jouais du violon à l'époque. Et très rapidement, en écoutant des disques, en m'intéressant à ces musiques, il y a une vingaine d'années, j'ai découvert le ou la nickelharpa. On dit comme on veut, en fait, il n'y a pas de genre en langue suédoise.
Bravo, ils ont donc, tout compris, ces gens-là.
Pour moi, c'est un « le ». Pour mon luthier, c'est une « la ».
J'adore. J'adore qu'on puisse décider.
Mais oui,
quel instrument moderne.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à jouer de cet instrument. Et puis, je suis partie me former en Suède, dans le pays du nickelharpa.
Éléonore, est-ce que vous me donnez le droit de prendre votre instrument dans mes mains ?
Avec plaisir.
C'est très impressionnant. C'est tellement beau pour les yeux, cet instrument. Et donc, on peut effleurer une corde comme ça ?
Voilà. Vous pouvez... avec les ongles ou le...
Oh, c'est extraordinaire. Donc là, la corde mélodique et là, la corde sympathique.
C'est ça.
Et ça fait un son tellement différent. Oh là, mon Dieu, je me sens possédée par cet instrument. Quel effet ça vous fait quand vous êtes avec cette créature vivante ?
Mais en fait, comme il résonne beaucoup, du coup, la caisse de résonance... c'est du bois, donc c'est vivant, puis c'est du bois qui est fin, résonne contre le corps. Voilà, ça promet beaucoup de sensations.
C'est un prolongement de vous-même et vous vivez une folle histoire d'amour avec votre instrument. C'est génial, il est magnifique. Merci de m'avoir autorisé à le toucher. J'avais l'impression d'un adultère, vous savez. Je me disais, mais comment est-ce que j'ai le droit de toucher le grand amour d'Éléonore ?
Ben non, mais je le prête volontiers.
Ah, vous êtes décidément moderne sur toute la ligne.
Parce que je ne dois pas être la seule à pouvoir tomber facilement amoureuse de cette créature.
Il y a de quoi tomber amoureuse de lui ou d'elle, hein, parce que franchement, il ou elle est très, très séduisant.
Oui.
Moi, je ne connais absolument rien en musique scandinave. Est-ce que vous pourriez m'expliquer est-ce un instrument qui aurait pu exister sous une forme plus ancienne, au temps des Vikings, peut-être sous forme de harpe?
Alors, je pense que beaucoup de gens aimeraient penser les choses comme ça, mais honnêtement, on n'a aucune trace des instruments de cette époque, à part peut-être des flûtes en os. Mais en fait, comme les instruments étaient faits avec des matières, la peau, les os, le bois, des matières qui n'ont pas perduré dans le temps, on n'a rien retrouvé de cette époque-là. Donc, on imagine, oui, en effet, peut-être des petites harpes ou au moins des monocordes, donc juste un arc avec une corde, et puis voilà, certainement oui, des flûtes, certainement des chants, des tambours, parce que c'était un peuple avant l'arrivée du christianisme, donc c'est un peuple qui a été christianisé au XIe siècle, mais avant, donc c'est un peuple païen qui croyait en une multitude de dieux, un peuple qui utilisait beaucoup le chamanisme, donc c'est vrai que les tambours et les chants et associés aux danses qui vont avec, on pense que c'était très fort dans la vie quotidienne des Vikings.
Oui. Oh, j'imagine les Vikings comme un peuple splendidement barbare qui ignore la peur. Enfin, tout, je n'y connais rien. Ce sont les idées qu'on a sur les Vikings, justement comme quand on n'y connaît rien.
Oui, oui. Il y avait de ça, mais c'était loin d'être leur qualificatif premier. Déjà, c'était un peuple avec une notion très fine de l'art, justement, où on retrouve dans les décorations, les ornements, les bijoux, et le fait qu'ils sont venus justement piller. Ils aimaient beaucoup les échanges. On les imagine barbares, mais je pense que c'était comme n'importe quel peuple.
Bien sûr, bien sûr. Disons que quand vous parlez d'échanges, ces échanges avaient généralement la forme de la guerre.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'on a tendance à les trouver barbares, mais on en faisait autant.
Ben oui, tout à fait. Puis, alors qu'eux, en plus, ils ont été très, très enclins à accepter le sort aussi qu'on leur réservait. Justement, le fait qu'on a christianisé ce peuple. Et apparemment, ça s'est fait plutôt sans trop de heurts. Parce qu'eux, ils étaient prêts à accepter. Déjà, ils croyaient en plein de dieux, donc pourquoi pas un de plus. Mais c'est à l'inverse, en fait. On a voulu restreindre leur croyance.
Mais c'est nous qui avons été effroyablement violents. C'est ça, en disant, abjurez vos autres croyances si vous voulez avoir le seul vrai Dieu.
Ouais, c'est ça.
Éléonore, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous jouer les morceaux que vous avez composés et qui sont inspirés de la Voluspa?
Je travaille avec trois autres musiciennes, deux norvégiennes et une grecque, dans un quatuor à cordes qui s'appelle Toxo. Toxo qui signifie archer en grec. Et donc on travaille depuis 12-13 ans ensemble et on a décidé de travailler donc autour du poème d'Yggdrasil, un arbre cosmique.
C'est superbe. Merci infiniment. C'est bouleversant. J'ai eu la chair de poule pratiquement tout le temps. C'est très fort comme musique. C'est saisissant. Ça crée une émotion proche du malaise. Mais ce qui domine, c'est qu'on est séduit. Voilà. Et c'est vrai qu'on sent... bon, c'est très moderne, mais on sent aussi que ça... plonge ses racines dans quelque chose de très ancien.
Eh bien, en parlant de plonger ses racines, justement, ce morceau est inspiré donc, d'un poème qui s'appelle Yggdrasil. Et Yggdrasil, on l'appelle l'arbre monde. Dans la mythologie scandinave, c'est un arbre qui possède trois racines et qui soutient les neuf mondes, dont le monde des hommes, mais aussi celui des elfes, des géants, des dieux. Donc c'est un arbre en même temps fragile mais indestructible. On pense que c'est un nif ou un frêne. Mmh. Et donc avec trois racines dont l'une plonge vers une fontaine, l'autre vers un puits et la troisième vers une source. Donc l'eau est aussi très présente déjà dans les pays. Vous n'êtes jamais allé en Scandinavie ?
Absolument jamais. Ça me fait beaucoup rêver.
C'est des pays qui sont magnifiques et où l'eau est assez présente. Les éléments, en règle générale même.
La Voluspa, dans l'Edda poétique. Je sais que se dresse un frêne. S'appelle Yggdrasil. L'arbre élevé, aspergé de blanc remous. De là vient la rosée, qui, dans le vallon, tombe. Éternellement vert, il se dresse au-dessus du puits d'Urder. De là sont venues les vierges, savantes en maintes choses, trois, sorties de la mer sous l'arbre placé. L'une s'appelle Urder, l'autre Verdandi. Taillée des bûches de bois. Skuld, la troisième, elles firent les lois, elles fixèrent la vie des fils des hommes et la destinée des mortels.
Chère Éléonore, il y a un autre morceau que vous avez composé à partir de ce thème.
Voilà, donc c'est un morceau qui s'appelle Surtnarsul, qu'on appelle aussi Balder. Balder, c'est un dieu scandinave, c'est le fils d'Odin, et le frère de Thor. Et Balder, c'est le dieu de la jeunesse, de la beauté, de l'amour. Le dieu que tout le monde envie, c'est un dieu très important, parce que déjà très, très positif, il habite dans une demeure faite de pierres précieuses, il a des magnifiques enfants, une magnifique femme. Et il y a un autre dieu, Loki, qui est jaloux de Balder. Depuis quelque temps, Balder faisait des cauchemars de mort. Et puis, il en parle à sa mère, qui voilà, prend les choses sérieusement. Et elle sillonne les neuf mondes et elle demande à chaque être vivant ou élément de jurer fidélité à Balder, en tout cas de jurer le fait de ne jamais lui faire de mal, donc que ce soit les pierres, l'eau, les géants, les ruisseaux, la moindre élément qui existe dans ces neuf mondes. Et donc tout le monde jure, donc la mère de Balder est rassurée. Et puis Loki, c'est un peu le bouffon des dieux, et un dieu un peu malfaisant, et il se déguise en vieille femme. Il va voir la mère de Balder, elle dit « Mais est-ce que vraiment tout le monde a juré ?» Il dit « Il y a bien quelqu'un qui n'a pas juré de protéger Balder, et c'est une petite branche de gui. » Loki va trouver cette branche de gui, prélève du poison, et le met au bout d'une flèche, et puis il va retrouver tous les autres dieux qui étaient voilà, en train de s'amuser, et il propose au frère de Balder de jouer aux fléchettes. Le frère de Balder étant aveugle, il guide sa main, et la fléchette vient se planter dans le cœur de Balder, qui meurt. Le morceau Surtnarsul représente la mort de ce dieu de la beauté et de la sagesse et de la bonté aussi.
Ça me faisait penser à certains sons japonais, de la musique ancienne japonaise, en gagaku par exemple, la musique shinto.
Ah, je ne connais pas vraiment ces traditions.
Et c'est aussi des sons très proches de la nature, très graves, qui ne ressemblent pas du tout à nos sons à nous.
Mais le fait qu'on ait des touches qui viennent percuter les cordes, je trouve qu'on a un son qui est assez organique.
Oui.
Le son n'est pas atténué par la pulpe du
oui.
doigt.
Oui.
Et donc, on peut vraiment aller vers des...
Oui, là aussi, j'ai de nouveau la chair de poule.
C'est
hein,
ça, oui, oui. Et c'est vrai qu'on peut vraiment avoir une multitude de sons. C'est un instrument qui est riche de possibilités.
Enfin, on sent qu'il est question de la mort d'un dieu. C'est terrible. En plus, le dieu du beau, du bien. Et alors, je vous regarde, ça, c'est aussi impressionnant, parce que vous êtes très fine, mais on sent que vous êtes aussi très musclée, parce que j'imagine que pour jouer d'un pareil instrument, il faut une certaine force physique.
Pas forcément une force physique, mais c'est vrai que ça, l'instrument étant, vous l'avez constaté par vous-même, c'est pas très lourd, mais ça pèse quand même 2 kilos. Et quand je le porte, je joue principalement debout, en le tenant avec une sangle, et le poids est déséquilibré, et tout le poids se retrouve sur le côté gauche. Et c'est vrai que ça demande, en tout cas au niveau du dos, de faire régulièrement des exercices de musculation, chose que j'ai faite avant de partir ce matin de chez moi.
C'est extraordinaire. Je découvre que les musiciens doivent faire de la musculation pour jouer de leur instrument.
Mais oui, en tout cas, au moins du dos pour être... c'est des instruments de musique et de plaisir et pas de torture. Donc, pour prévenir... mais j'imagine, en tant qu'écrivain, le fait d'être à une table comme ça devant l'ordinateur...
Raison. Vous savez, j'ai calculé que je fais le geste d'écrire 9 heures par jour. Et à cause de ça, comme les muscles, c'est vraiment pas mon fort, j'ai des douleurs d'épaule. Ça, c'est la petite vieille qui parle. Et alors, je suis allée voir un kiné qui m'a dit « Mais c'est parce que vous manquez de muscles. » Et ouais. Maintenant, tous les jours, tous les matins, je dois tirer sur un... C'est ridicule. Sur un gant de vaisselle pendant 5 minutes entières pour développer ici un petit muscle qui m'empêchera d'avoir ces douleurs abominables.
Ben oui, mais je pense que ces 5 minutes, elles sont très importantes.
Absolument. Chère Éléonore, notre temps est déjà écoulé. C'est comme une vie réussie, ça se finit beaucoup trop vite. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons quitter ce studio ensemble.